Cool, ben c'est Madalton, ça fait super longtemps qu'on s'est pas entendu. Et bien voilà, aujourd'hui je vous emmène en utopie. J'ai trouvé un prospectus l'autre jour dans un bar de Saint-Germain-sur-Île sur le retour du radeau utopique. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi j'en avais pas entendu parler, je sais pas où j'étais. Je devais être ailleurs l'année dernière. À l'époque où ils sont partis, il me semble qu'on était sur une place, dans une ville, dans une maison du peuple, ou un truc comme ça. Et pendant ce temps-là, il y avait ce radeau qui partait à l'aventure, à la recherche de l'île utopique. Et ils sont donc revenus, on va savoir s'ils ont trouvé l'île utopique. Ils reviennent par le canal d'Île-et-Rance depuis Saint-Malo jusqu'à Rennes. Ils seront à Rennes à la fin du mois. Et voilà, et nous, on va les rencontrer à Aidé-Bazouge. Nous partons donc en camion avec Sarah Fistol et Adonis, notre ami grec que vous avez déjà entendu sur ces ondes. Et notre cher camion fidèle voyageur qui est Master X. Le diesel chauffe et nous démarrons. Et c'est parti pour l'utopie. D'amour, de réflexion et surtout de bon sens. Que les enfants de la terre se libèrent un jour afin de faire naître une nouvelle eau remplie d'amour. Que tous les serpents en costume et leur maudit venin soient écrasés sur le talon du peuple un beau matin. On est arrivé à Aidé-Bazouge, là on est devant le radeau qui va servir de scène pour le spectacle. Il y a quelques gratins, les gens arrivent, s'installent, ou sur les gratins, ou par terre. Donc le radeau, c'est 5 plateformes qui sont reliées entre elles. Et il y a des cabines, il y a une cuisine qui a l'air super bien avec plein de choses dedans. Il y a une grande table, des chaises, une grande voile, un drapeau transparent, plastique, qui flotte. Et il y a les comédiens qui se préparent doucement. On en voit qui court d'un endroit à l'autre du radeau, qui tape au marteau, qui donne un coup de scie par-ci, par-là. Je crois que ça va bientôt commencer. Bon, j'ai installé le micro, hein, parce que c'est un enregistrement pirate, parce que pour un radeau utopique, il fallait bien une bonne piraterie. Donc voilà, il y aura Je voulais vous dire qu'il y aurait d'autres présentations à Guipel, Saint-Germain, Béton et à Rennes le 22 et 23 juillet. Donc à chaque fois, c'est le premier soir une projection du film et le deuxième soir la représentation de l'utopie d'après Thomas More. Mais de toute façon, vous avez toutes les infos sur radeau-utopique.com. Allez, ça commence, je vous laisse, à tout à l'heure.
Chers amis, vous tous ici présents qui assistez à cette scène tragique, nos larmes suffiraient à faire déborder le canal et inonder la ville. Nous avons tant pleuré que je peux croire aujourd'hui que ce sont des larmes salées qui ont rempli l'océan. Nous sommes de retour sur cette terre qui nous a vu partir, et sans plus aucun espoir, notre monde s'est soudain écroulé. À notre départ, nous nous étions préparés à mourir. Chacun savait les dangers vers lesquels nous allions, mais aucun de nous n'était vraiment prêt à enterrer un cadavre. Après avoir bravé tous les dangers, les tempêtes et les monstres marins, après avoir survécu aux éléments déchaînés, à l'océan impitoyable qui a failli nous broyer plus d'une fois. Après un voyage insensé.
Non, on n'a pas mis le mort. Il faut quelqu'un pour faire Thomas mort.
Yes, c'est trop tard. J'ai commencé l'oraison.
C'était émouvant. En plus, regarde, les gens, ils allaient se mettre à pleurer.
Karine, vas-y. J'en ai marre de toujours faire ça.
Toi, comment t'attends?
Pas de blague.
Chers amis, vous tous ici présents, qui assistez à cette scène tragique, nos larmes suffiraient à faire déborder le canal et inonder la ville. Nous avons tant pleuré que je peux croire aujourd'hui que ce sont des larmes salées qui ont rempli l'océan. Nous sommes de retour sur cette terre qui nous a vu partir. Je ne sens plus aucun espoir. Notre monde s'est soudain écroulé. À notre départ, nous nous étions préparés à mourir. Chacun savait les dangers vers lesquels nous allions. Mais aucun de nous n'était vraiment prêt à enterrer un cadavre. Après avoir bravé tous les dangers, les tempêtes et les monstres marins, après avoir survécu aux éléments déchaînés, à l'océan impitoyable qui a failli nous broyer plus d'une fois, après un voyage insensé qui pourtant faisait tellement sens à notre départ, je vois des visages qui nous scrutent. Ces mêmes visages que l'on a connus un an plus tôt et qui parfois pleuraient, parfois agitaient un mouchoir blanc au-dessus de leur tête pour nous dire adieu. C'est un mercredi que nous avons pris la mer après avoir descendu le canal d'Illérance qui est devenu une errance vers notre île. Nous avions un espoir infini quand il y a un an, face à vous, résonnait notre discours d'adieu. Simon, tu te souviens de ce discours que tu disais ?
Je me souviens debout, de bribes. Je crois que je disais : si nous partons vers la mort, réjouissons-nous. Nous aurons au moins tenté une fois de croire en nos rêves, en la possibilité de nos rêves. Mais si nous partions vers la vie, si cette île qui n'existe pas sur cette terre où nous sommes finissait par exister parce qu'un radeau et son équipage décidaient d'y croire et de s'y rendre.
C'est à ce moment-là que je commençais à faire du tambour.
Si nous survivons à cette expédition, nous reviendrons dans un an raconter ce que nous avons découvert.
Et l'équipage se mettait à chanter, et le tambour battait, et le chant s'élevait, les mouchoirs flottaient, les amarres étaient lâchés. Nous partions à la recherche de cette île.
Un an plus tard, alors que nous retouchons terre, c'est avec une tristesse immense que je vous annonce que nous n'avons pas trouvé l'île d'Utopie. Malgré nos espoirs infinis, notre persévérance à toute épreuve, nous revenons aujourd'hui la gorge serrée. L'île d'Utopie n'existe pas puisque nous ne l'avons pas trouvée. Lors de notre départ, nous avions rencontré tous ces gens qui nous avaient pourtant prévenus. Vous partez à la recherche d'une île imaginaire. Vous courez après une chimère. Vous ne parviendrez jamais à la trouver, jeune fou. Et ils avaient raison, jeune fou que nous étions. Aujourd'hui, en ce dimanche 9 juillet, nous enterrons Thomas More, son île d'Utopie, et tous nos rêves avec. Et toi, Thomas More, qui fut guillotiné en 1535, nous t'enterrons une bonne fois.
Mais peut-être qu'on pourrait quand même faire son procès avant de le condamner.
Ah oui, je mérite un procès.
Il n'y aura jamais cette oraison. Mais j'étais en train de faire l'oraison là.
Procès, n'en parlons plus.
Juge, mettez vos robes, un peu de décence.
Thank you.
comparaissez aujourd'hui devant nous dans l'abbaye de Westminster pour répondre de vos actes.
Pour répondre d'un livre.
Un livre sacrilège.
Voici l'acte d'accusation. Vous avez écrit et fait paraître en 1516 un livre intitulé « De la meilleure forme de gouvernement politique ou la nouvelle île d'Utopie » qui décrit une île nommée Utopie qui se situe on ne sait où serait une société idéale. Ainsi vous vous trahissez. Vous pensez que notre Angleterre n'est pas une société idéale?
Bien dit.
J'ai entrepris de faire un récit et non une apologie. Quoi qu'il en soit, ce dont je suis bien convaincue, c'est que grâce à de telles institutions ici décrites, il n'existe nulle part au monde de peuple plus remarquable, ni de république plus heureuse. Cette île est un miroir, et notre Angleterre ferait bien de s'inspirer de son reflet.
S'inspirer du fonctionnement de cette île? Monsieur Thomas More, vous êtes fou! Vous délirez!
Vous souhaitez donc ressembler à ces sauvages qui apparemment, et je vous cite page 39, chers collègues, mangent et boivent dans des coupes d'argile ou de verre, tandis que l'or et l'argent servent dans les édifices communs aux plus basses besognes et même à des pots de chambre. Vous entendez, chers confrères, ils défectent dans de l'ordre. Les mœurs de ces utopiens sont à l'inverse de ce qui a fait la grandeur et la richesse de notre civilisation.
Peut-être que notre civilisation pourrait justement s'en inspirer.
Ah, insolent! Je renverserai bien un pot de chambre sur votre tête!
Il serait bien mieux coiffé, assuré!
Mon frère! Poursuivons. Vous dites également, page 32, lorsqu'ils ont assez de marchandises, ils arrêtent de travailler.
Oh non, mais
quel exemple vous nous donnez là! Ne pensez-vous pas que ces braves gens désœuvrés vont se mettre à réfléchir?
Oui,
s'ils ne se tuent pas à la tâche.
Mais il ne peut pas y avoir toute une partie de la société qui meurt dans les champs pendant qu'une autre dévore les fruits de son travail. Quand les greniers sont pleins, il est inutile de continuer à fabriquer ses propres chaînes.
Oh, mais voyez donc le peuple quand il se déchaîne. Savez-vous que des émeutes ont éclaté dans Londres après la publication de votre torchon? Ils réclament que notre île d'Angleterre soit administrée comme cette île d'utopie.
On arrive donc à la question cruciale et qui nous occupe tous. Cette île existe-t-elle? Personne d'autre que votre prétendu Raphaël Claudet ne nous en a rapporté son existence. Est-elle issue de votre imagination malsaine ou bien se trouve-t-elle véritablement au milieu de l'Atlantique?
Si elle existait, vous voudriez vous y rendre?
Moi, j'aime beaucoup voyager, hein?
Non,
répondez à la question!
Elle existe! Pour ceux qui ont envie d'y croire.
Oh, mais vous tentez de nous embobiner. Entre nous, cher Thomas More, avouez vraiment que cette île n'est que le fruit de votre imagination, de votre esprit malade. Avouez, et vous aurez la vie sauve.
Je vous avoue une chose. Plus nombreux sont les lecteurs de ce livre, plus cette île grandit, et plus elle se rapproche de notre Angleterre.
Vous êtes un bouffon. Malheureux, vous me faites pitié.
Ah oui, vous vous justifiez d'ailleurs. Page 140, on goûte beaucoup les bouffons en utopie.
Dis-y, on les décapite.
Trêve de plaisanterie. Thomas More, l'aidez-vous coupable.
Coupable de quoi?
Coupable de...
Bah oui, de quoi déjà?
D'être coupable.
Non, ce n'est pas vous qui posez les questions, répondez.
Je réponds que je suis ignorant, ignorant du mal que j'ai fait en racontant comment cette île est organisée, ignorant des raisons pour lesquelles vous m'accusez, ignorant d'être innocent ou coupable.
Ah ! Qui ignore son innocence ne peut qu'être coupable. Vous allez donc mourir.
Là-bas, en Utopie, la peine de mort est depuis longtemps révolue.
Si vous êtes contre la peine de mort, je vous condamne à mort.
Nous proclamons unanimement cette sentence.
La sentence exige que vous soyez emmené jusqu'à la Tour de Londres, lieu de votre exécution, pour que votre tête y soit séparée de votre corps.
Oui. Attendez. Permettez-moi avant d'en finir. Quand je pratiquais le droit, la coutume était de demander aux prisonniers avant de prononcer la sentence s'il avait quelque chose à déclarer.
Avez-vous quelque chose à déclarer?
J'aimerais vous lire un extrait de ce livre qui m'accable d'après vous.
Oh non!
Pour moi, je refuse de laisser entrer dans mes oreilles ces ignorés!
Compris! Ce livre et son lecteur! Finissons-en! La justice a parlé!
J'ai compris! Considérons cela comme sa dernière volonté.
Je vous remercie de cette précieuse amabilité. Voilà donc le dernier chapitre de ce livre par votre serviteur, Sir Thomas More.
Page combien ?
Que je meure si je trouve dans les autres pays la moindre trace de justice et d'équité. Quelle justice est-ce donc là quand un noble, un orfèvre, un usurier, bref, un de ces individus qui ne font absolument rien ou dont l'activité est sans aucune utilité réelle pour les hommes, mène une vie délicieuse et magnifique dans l'oisiveté ou en se livrant à des occupations frivoles, alors que le manœuvre, le charretier, l'artisan ou le paysan vivent dans une noire misère, gagnant à peine de quoi subsister.
Mais on s'en carre du charretier.
Aussi, quand je considère ces états qui partout prospèrent, je n'y vois, Dieu me pardonne, que la conspiration des riches, lesquels font leurs propres affaires, sous le couvert et au nom de la République.
Abrégez !
Abrégez ! Ces hommes si méchants, même après qu'ils se sont partagés avec une cupidité insatiable, ce qui suffirait aux besoins de toute une population, comme ils sont loin encore du bonheur que connaît la République d'Utopie.
C'est
en Utopie, où l'argent ne sert à rien, il n'y a place pour aucune cupidité. La pauvreté même, qui seule paraît avoir besoin d'argent, viendra s'éteindre si la monnaie était abolie.
Oh, qu'on lui coupe la tête! Il l'a déjà perdu de toute façon.
Mourons! Fais ton travail! Fais taire cette bouche! Tu parles trop! Exactement la réalité, c'est une reproduction historique, car en effet, le véritable Thomas More a en effet eu seulement un quart de sa tête coupée, comme cette pastèque. Merci.
Une mer hachée et brutale, mais une fois de plus,
notre fier radeau tient bon. Nous échouons volontairement, mais non sans mal, sur la plage de Pont-Secours. Là, de nombreuses personnes sont venues écouter le récit de notre expédition. Expédition qui commence véritablement ce soir. Le radeau est encore échoué. Il y a une foule qui nous regarde. Des hommes, des femmes, des enfants. Il y a du sable, des rochers, des remparts, Saint-Malo et l'équipage qui chante.
Nous étions sur la mer, enfin! Alors tout l'équipage s'est retourné vers Joachim. À Béton, il avait rencontré cet homme qui s'appelait Erwan et qui était marin-pêcheur. Erwan lui avait dit connaître l'île d'Utopie. Il l'avait seulement aperçue au loin, mais son père apparemment y avait déjà accosté. Il avait révélé à Joachim l'emplacement de l'île en lui faisant promettre de n'en faire part au reste de l'équipage que lorsque nous serions en mer. Voilà que nous y étions et que tous nous attendions qu'il ouvre la bouche et qu'il nous révèle son secret qu'il avait si bien gardé jusqu'à présent. Joachim, à présent tu peux nous dire...
Vous allez être déçus, Joachim. On doit savoir dans quelle direction aller.
Très bien, mais vous allez sans doute le regretter.
Mais évidemment que non.
Qu'est-ce que tu racontes, Joachim? La position de l'île, c'est ce qu'on cherche depuis le départ de Rennes.
Mais a-t-on vraiment besoin de savoir où elle est pour pouvoir la trouver?
Joachim, ça fait des semaines qu'on attend.
Très bien, je vais vous le dire.
Parle.
D'après Erwan, l'île d'Utopie se trouve dans le golfe de Gascogne. Bah oui, c'est tout. Et alors, Utopie n'a pas besoin d'être loin, on en a déjà rencontré des bouts à Aider, à Tadin, elle peut être juste à côté.
Le golfe de Gascogne, c'est cet endroit que tous ceux qui connaissaient la mer et qu'on a rencontré sur le canal nous ont dit que c'était tellement dangereux que le radeau se disloquerait immédiatement.
Le vent se leva, comme par magie. Il venait de l'est. Alors nous avons mis les voiles et le vent prit dedans.
Cap sur le golfe de Gascogne.
Première semaine de navigation, la douceur de l'été était clémente. Nous longions la côte et les marées décidaient de notre direction.
Nous croisions des plaisanciers qui nous prenaient en photo comme si nous étions une attraction mise en place par la région Bretagne pour amuser les touristes. Nous pêchions des ribambelles de maquereau avec une ligne de traîne. Pendant ces premières semaines, régnait une ambiance joyeuse. Nous apprivoisions la mer. Peut-être était-ce la mer qui nous apprivoisait. Chaque matin, Joachim grimpait en haut du mât et scrutait l'horizon. Il y restait parfois pendant des heures.
De là-haut, il nous décrivait les reliefs aperçus au loin, repérait la côte quand elle apparaissait et signalait les dangers. Et moi, je notais sur une carte tous les détails et calculais notre position jour après jour.
Il y a quatre têtes de roche au nord-est, une perche montée d'une croix sur la première et un cormoran fait sécher ses ailes sur la deuxième.
Par quatre, nous nous relayons aux rames toutes les heures. Mais malgré le cap que nous tentions de tenir, nous sommes pris sans cesse dans des courants étonnants. Sur la carte, c'est comme si nous étions pris dans une tempête. Le radeau était allé au nord, au sud. Nous avons fait, en quelques semaines, le tour de la Bretagne. Et le golfe de Gascogne et l'océan infini s'étendaient face à nous. Cela faisait plusieurs jours que la Terre avait définitivement disparu. Joachim ne quitte plus la tête de mât. Il scrute nuit et jour. Tout comme Erwan, le marin pêcheur, ses yeux sont engourdis par la mer, alourdis par la fatigue et par le sel. Il a une mission. Nous pouvions apercevoir cette île à tout moment. Alors inlassablement, il guette.
Toute terre a disparu depuis longtemps. Terre abolie. Autour de nous, de l'eau, et encore de l'eau jusqu'à plus soif. Les oiseaux se font de plus en plus rares. Ce que nous croisons semble s'être égaré au milieu de rien. Ce soir, le vent est tombé. Tout est calme.
Le soleil s'est couché, mais Joachim ne dort presque plus.
L'horizon est silencieux. Mais les étoiles nous parlent. Elles racontent des histoires. Toute la nuit, j'ai relié les points lumineux dans le ciel qui ont fini par former une île. L'île d'Utopie est peut-être là-haut. Zut! Nous aurions dû partir en montgolfière. Sur la mer, nous sommes condamnés à errer horizontalement. L'utopie est peut-être une quête verticale, une quête métaphysique. Nous appelons dans le ciel Utopia! Mais le vide nous répond par un silence tonitruant. Peut-être que... Les amis, venez voir! Vite!
C'est l'utopie!
Mathieu, Inès, Camille! Il y a une chose que nous avons oubliée avant de partir sur la mer. Le niveau de l'eau. Il y a 500 ans, il était inévitablement plus bas. Si notre île était au fond de la mer, nous pourrions passer des dizaines d'années à la chercher sans jamais la trouver. J'ai donc pris une décision. Si je ne suis pas revenu dans une heure, venez me chercher.
Joachim, reviens !
Non, non, pas !
Joachim,
on ne joue pas avec ça!
J'ai pas de chèque, je reprends! Ah non, attention! Derrière toi, un requin!
Oui!
Ah,
là-bas,
derrière toi!
Merci,
arrêtez! Ils m'ont pas eu, je suis sain et sauf! Et où sont-ils?
Ils sont partis! Mais si tu y retournes, ils reviendront! L'île d'Utopie n'est pas sous la mer, Joachim, sinon on serait parti en sous-marin!
Regarde-moi dans les yeux! Il faut qu'on continue à croire, ça fait qu'un mois qu'on est parti, elle finira par apparaître! Faut pas qu'on commence à douter, sinon on est perdu. Regarde-moi, Joachim.
Le sel avait rongé ses yeux. Ils étaient rouges et irrités. Ses orbites s'étaient creusées. Il avait un air hagard. Et quand il nous regardait, nous avions l'impression d'être un paysage qu'il scrutait comme l'horizon. Il connaissait maintenant parfaitement la forme des vagues et le récit que nous livre l'océan. Chaque tête de roche, chaque écume frémissante était analysée d'un regard. Chaque nuage racontait une histoire qu'il lui fallait comprendre, jusqu'au jour où, ébloui, il est devenu lui-même un bout de ciel.
Le ciel. Là-haut, je m'approche des nuages, plus proche des cieux que jamais. À l'instant, là-bas, j'aperçois. Est-ce une île ou alors le soleil? Un crâne flamboyant. Si je regarde trop longtemps le soleil, je ne verrai plus rien pourtant. Je préfère regarder le soleil quelques instants plutôt que de voir le ciel grisâtre et maussade, l'horizon nu pour toujours. Dans le soleil, je vois la tête d'un homme, un crâne surmonté d'un chapeau. Il nous regarde, il regarde le monde. Son visage est une boule de feu. Voilà que le soleil se noie.
Est-ce notre île qui brûle sur l'eau, un gigantesque brasier, et les nuages, la fumée? Est-ce un phare qui nous guide ou bien est-ce l'ancien monde qui n'en finit pas de finir? Peut-être qu'enfin le voilà en cendres. J'ai fixé la boule de feu droit dans les yeux. Une grande lumière d'abord, un blanc intense. Et puis, une odeur de brûlé. Puis un voile qui s'abaisse sur mes yeux. Du brouillard! Nous sommes entrés dans le brouillard!
Mais non, Joachim! Le ciel est bleu et le soleil est droit devant!
Nous sommes plongés dans le brouillard. Un épais brouillard, ou alors je suis dans un nuage qui vole bas.
Tu n'es pas dans un nuage!
Pourtant, tout a blanchi autour de moi. Une fumée épaisse, de plus en plus épaisse. Regardez! La nuit est en train de tomber. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est ce signe obscur?
Ouvre les yeux! Nous sommes en plein jour!
Je ne vous vois pas. Les ténèbres envahissent les cieux. Allumez vos lampes!
Joachim, qu'est-ce qui te prend? Redescends tout de suite!
Je ne vois même plus mes pieds!
Joachim, prends ma main!
Quelle main? Je ne la vois pas.
Tu ne vois pas ma main?
Après avoir trop longtemps regardé l'horizon, il était devenu l'horizon. Ses yeux avaient brûlé au soleil et il n'avait pas eu mal. Joachim, redescends! Tu n'y vois plus rien!
Je ne redescendrai pas! Imaginez que notre île apparaisse et que je ne sois pas là. Imaginez qu'apparaisse une lueur d'espoir qui aussitôt disparaît.
Joachim, tu es aveugle. Pendant les minutes et les heures qui suivirent, il refusait d'admettre qu'il était devenu aveugle. Il attendait que le jour se lève. Mais le jour ne s'est pas levé. Peu à peu, une douleur aiguë monta sur son visage. Il pleurait sans voir de larmes. On était tombé dans la nuit pour toujours. Il comprit alors qu'il ne pourrait plus jamais voir, que sa rétine avait brûlé. Il continua pourtant à passer le plus clair de son temps à scruter, non plus avec ses yeux, mais avec ses oreilles.
Je ne vois peut-être plus, mais je peux entendre au loin les vagues qui se brisent annonçant une terre lointaine. Je peux chanter si fort que le son de ma voix résonnera contre les falaises. Lord, mighty, fall from you spring, exile forever left me long. When night's black curtain sad in fantasy, yeah, let me live for long. Down the light shine you no more. No nights are dark enough for. Happy, happy, good that in hell can see the world is high.
Nous n'avons plus d'aliments frais depuis des jours et nous commençons à sentir nos corps plus légers et plus faibles. Il n'a pas plu depuis 5 jours. Le réservoir d'eau est presque vide. Nous devons nous rationner. Certains résistent mieux que d'autres au manque de nourriture. Mais Karine est la plus faible. Souvent, quand elle se réveille le matin, elle croit que son rêve se poursuit dans la réalité.
Regardez là-bas! On aperçoit le clocher de Tadin. Vous entendez les cloches? C'est l'heure de la messe, les amis, prions!
Karine, il n'y a rien là-bas. On a quitté Tadin depuis des semaines.
Mais bien sûr que c'est le clocher de Tadin. Regarde, je vais te le prouver. Tu vois, l'océan s'ouvre. Je suis Saint-Urion.
Elle se souvenait de cette histoire que nous avait racontée Evelyne, la mère de Tadin. Un certain Turion avait planté son bâton dans la rance et un guet avait fendu les eaux.
Je vous laisse, les amis. Je vais à l'église par le chemin.
Karine! Il y a de l'eau à perte de vue.
Tu ne vois pas le chemin que je viens de tracer?
Karine, réveille-toi.
Laissez-moi tranquille. Je reviens après la messe.
Quelqu'un a besoin que je rapporte quelque chose de la ville.
Karine, cette ville n'est qu'un mirage comme tous les autres qui nous ont déjà trompés. Les villes ne flottent pas.
Mais le clocher ne flotte pas. Il est au fond de l'eau.
Elle a raison. Il y a un clocher juste en dessous de nous.
Vous êtes complètement débiles tous les deux. On est au-dessus d'une fosse marine de 1000 mètres de profondeur, là.
Mais regarde toi-même.
Il n'y a rien, Karine. Juste de l'eau noire.
Oui, c'est vrai, il n'y a rien.
Je vais finir par être en retard.
Karine, t'es folle.
Laissez-moi. Mais... il n'y a rien, ni au fond de l'océan, ni à l'horizon. Mais si. Vous l'avez fait disparaître. Dès qu'une chose apparaît, il faut s'en saisir. Pas attendre qu'elle meure.
Une forte fièvre avait saisi son corps. Karine était malade et s'affaiblissait de jour en jour. Nous lui avons installé un hamac sur le pont et nous la veillions à tour de rôle. Son visage était blême, des gouttes perlaient sur son front et elle ouvrait rarement les yeux. Seulement pour nous raconter ce qu'elle voyait quand elle les avait fermés. À la nuit tombée, elle imaginait qu'une baleine nous avait avalés et qu'elle nous recrachait au petit matin. Le soir, elle voyait dans le noir toutes sortes de mirages. Je l'entendais nous raconter ses visions.
Vous avez vu tous ces arbres? Cette forêt qui nous entoure? La berge n'est pas loin. Accostons les amis et marchons tous ensemble sur le chemin de Halage. Je vais tirer le radeau avec mon frère cheval. Je mettrai la corde dans ma bouche, mes dents s'agripperont. Et vous verrez, nous allons aller vite. Rapprochons-nous de la berge. J'aperçois un quai et d'autres bateaux. Et il y a tous ces gens qui nous regardent. Oh,
Karine, je voudrais dormir, là.
Mais regardez tous ces gens assis sur la berge. Oh, spectateurs de notre naufrage. Nous ne sommes pas un mirage. Nous sommes bien réels. Arrêtez de nous scruter immobiles. Levez-vous et montrez-nous où se trouve l'île que nous sommes partis chercher. Nous allons nous perdre. Vous ne voyez pas qu'on s'enfonce dans notre folie?
Karine, arrête. Il n'y a personne là-bas.
Mais pourquoi personne ne me croit? Ils sont là. Ouvrez donc les yeux. Ils veulent nous aider, je le vois. Moi, je sais que vous êtes là. Alors ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé ensuite. Quelques jours plus tard, je fus prise par le chaud et le froid. Je me levais de mon lit balançoire et pour la première fois depuis des millénaires, je savais que j'allais vers mon but. Je sais où je vais. Un jour, c'était au printemps dernier, j'ai souhaité que la mer m'avale. Mais elle me tenait par sa main nue et regardait couler mes larmes. Comme un petit enfant au sein, longuement elle me nourrit. Et bien des marées plus tard, comme elle, je suis devenue. Une pâte malléable, un amas de chair, un monceau d'atomes fondus dans le vent. Devant moi se dressaient 11 écluses qu'il me fallait franchir. Les portes immenses retenaient des océans miniatures. Chaque écluse s'ouvrait sur une vallée. Avec mes amis utopistes, nous avons traversé les premières vallées, celles de la recherche. Ensemble, nous avons joué notre vie et notre raison pour comprendre la perfection d'un rêve d'utopie. Il fallut nous lancer comme des fous, soutenus par notre seul délire. Avec eux, je compris qu'il n'y avait rien à chercher. Restait-il encore quelque chose à trouver? Les autres vallées, je les ai traversées seules. Dans la vallée d'amour, je crachais mon cœur comme un venin. Là-bas, doucement, le monstre me tuait. Mais à chaque instant, il me prêtait sa force. C'est que l'épreuve d'amour est nécessaire à la sagesse. Là-bas, tous les êtres ont au cœur une plaie béante qu'ils apprennent à laisser éclater peu à peu pour que, telle une lèpre, elle leur ronge la chair et les os et les illumine de sa
vivante laideur. D'un pas rapide, j'ai traversé la vallée de la connaissance. Le souffle du vent sur mes talons. Prends garde, me disait-il. Si une chose t'arrête, elle devient ton idole. Plus loin, dans la vallée du néant, jaillit mon désespoir. Mais je prêtais attention aux gouttes de pluie et elles me chantèrent leurs secrets. Dans la vallée de l'unité, je compris que la diversité n'existait que dans mon esprit et que rien ne me différenciait des étoiles. Enivrée, je criais aux grands arbres : je veux vivre, aspirer votre soleil et chevaucher dans la lumière comme vous. Mais dans la vallée suivante, je fus prise de stupeur et mon intelligence resta au seuil de la porte, comme un enfant aveugle né. Aujourd'hui, j'aperçois enfin la barque venue me chercher. Elle file, elle glisse, elle tisse les gouttes d'eau. Une barque faite avec les ongles des morts. Et lui, le passeur. La dernière vallée s'ouvre devant moi. Je vais d'un pas joyeux, je suis prête. Là-bas, enfin, seule, je saurai ce qu'au même instant je cesserai de savoir.
Chercher partout, dans toutes les couchettes, dans chaque recoin du radeau. Karine avait disparu. Il a fallu accepter la terrible réalité. Elle s'était jetée à l'eau. Elle était partie à la recherche de ses mirages. Elle s'était noyée dans sa folie. Nous étions terrassés. Terrassés par l'idée que notre rêve avait fini par avoir une issue aussi tragique. Nous voulions changer le monde, et c'est la mort qui nous attendait les uns après les autres. Nous étions terrifiés par le sacrifice que nous venions de faire. Et pourtant, il était ô combien nécessaire. Qu'importent nos corps, Qu'importe nos vies, il nous faut continuer à chercher cette île par tous les moyens. Au risque de se perdre. Au risque de mourir. Le lendemain matin, nous avons repêché le petit corps noyé de Karine. Nous lui avons construit un cercueil flottant qui est parti à la dérive. Alors, à la manière des Vikings, nous l'avons brûlé sur l'eau. Les cendres de son corps ont noirci la mer. Tout était noir. C'était une autre nuit. Un autre jour allait venir et le voyage devait continuer.
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le pont du radeau, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le pont du radeau. Karine a vu Tadin, elle est partie un matin.
Karine a vu Tadin, elle est partie un matin.
Elle s'est jetée à l'eau depuis le pont du radeau, sur l'eau,
sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le pont du radeau.
Elle qui aimait les mots qui écrivait au hasard.
Elle qui aimait les mots qui écrivait au hasard.
On l'a remise à l'eau pour un nouveau départ.
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer. Sur l'eau, sur la rivière, sur le pont du radeau.
Un jour son petit corps retrouvera la rivière.
Un jour son petit corps retrouvera la rivière.
Elle reviendra du bord de la mer, sur l'eau,
sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du radeau, sur l'eau, sur la rivière, sur le
on n'a plus rien à faire dans notre désert d'eau. Mes lunettes sont tombées à l'eau. Je vois flou. Plusieurs fois par jour, je ferme les yeux pendant de longues minutes pour les reposer. Sur le radeau, certains dorment depuis plusieurs jours. Nous nous parlons peu, mais la fatigue nous relie tous. À force de fermer les yeux, je commence à rêver. Je construis en pensée un château qui grandit de jour en jour. Dans mon château, il y a de grands dortoirs, des lieux pour dormir et une vaste salle pour accueillir le vide et porter les corps épuisés. Le soir, nous nous serrons les uns contre les autres et nous nous parlons à voix basse. Voilà le jour qui se lève et une nuit encore de passé. Je me souviens du cercueil de Karine s'engouffrant dans la mer. On aurait dit une île qui chavire et qui se noie peu à peu jusqu'à disparaître totalement dans un tourbillon de tsunami. J'ai noté cette île sur notre carte. Depuis que nous sommes partis, toutes les îles que nous avons aperçues au loin figurent déjà sur les cartes connues. Pas une seule ne manque. Pas une seule terra incognita. Pourtant, à l'époque de Thomas More, le monde restait à découvrir. Tout était imaginable ailleurs. Il y a 5 siècles, les explorateurs qui partaient à la découverte d'un nouveau monde naviguaient avec des cartes sur lesquelles ils avaient eux-mêmes dessiné les terres et les îles qu'ils voulaient atteindre. Je suis d'ailleurs persuadée que l'Amérique a été inventée de toutes pièces par Christophe Colomb, qui a tellement voulu trouver une terre de l'autre côté de la mer qu'elle a fini par exister. Et d'un commun accord, le reste du monde y a cru. Mais nous, nous sommes condamnés à errer dans un monde où tout a été scruté, répertorié et découpé. Depuis des mois que nous sommes partis, partie, malgré nos espoirs et notre croyance, aucune terre nouvelle n'est apparue. Enfin, aucune. En réalité, nous avons bien découvert une île.
Là-bas, j'entends une terre.
Il a raison, il y a quelque chose.
Une île? Il n'y a absolument rien sur la carte.
Regardez, quelque chose se détache pourtant de l'horizon. C'est une île multicolore.
Personne n'en croyait ses yeux. Cette apparition était tellement soudaine. Le vent était favorable et peu à peu nous nous sommes rapprochés. Regardez, on dirait qu'elle ondule. Elle suit le mouvement des vagues.
C'est une île flottante.
Nous étions maintenant à quelques dizaines de mètres. C'était bien une île, mais une île de plastique. Des montagnes de bouteilles, de sacs et de microparticules gisaient sur des centaines de mètres. Tout ce plastique avait fini par former des reliefs, des falaises. Un paysage multicolore était né. Et dans ce paysage, des monceaux de cadavres d'oiseaux, rassemblés ici par le courant ou appâtés par ce paradis multicolore. C'était une désolation totale. Nous avons fui cette île comme la peste. Et je l'ai inscrite sur notre carte sous le nom d'île supermarché. Décidément, notre dérive n'a rien de normal. Notre route est un chaos que seuls les ouragans pourraient déchiffrer. Sur la carte, c'est comme si nous étions pris dans une tempête permanente. Travaillés au nord, à l'ouest, au sud, à l'est, au sud, bousculés sans cesse, arrachés à un cap que nous aimerions tenir. Nous sommes en déroute. Et si nous ne trouvons pas cette île, qu'allons-nous faire? Allons-nous revenir bredouille dans le monde réel?
Non.
Non. Ceux qui riaient de nous à notre départ auraient bien raison de rire. Écoutez, cette nuit, j'ai eu une idée. Si on ne trouve pas cette île, construisons-la. Fabriquons-la de toutes pièces. Décrétons au monde que nous sommes l'île d'Utopie. Je fonde, ici même, la République d'Utopie.
Pourquoi une république?
Mais c'est vrai ça, pourquoi?
Parce que dans le livre de Thomas More, c'est une république.
C'est plutôt une monarchie, non?
Non, c'est une république monarchique.
Moi, je vote pour une monarchie.
Mais tu peux pas voter si c'est en monarchie.
Attends, le vote a jamais permis de décider de quoi que ce soit. Non, moi, je vote pour une dictature.
Et qui serait dirigée par qui, hein?
C'est pas l'océan, le vague, ou une dictature du vent, tiens. Ça aurait du sens, ça.
C'est déjà lui qui nous dirige.
Qui vote pour que le vent soit le chef de notre république dictatoriale?
Attends, qui vote d'abord pour la dictature?
Ça n'a aucun sens.
De toute façon, on peut pas faire une société à 8.
Et pourquoi pas? Il y a beaucoup de métiers représentés ici. Toi, Joachim, tu es musicologue? Arnaud, il est ingénieur. Mathieu est architecte. JF est cuisinier. Moi, je suis cartographe.
Inès, on n'est pas assez nombreux.
Alors, il faut faire des enfants. Ah. Inès,
tu choisis qui?
Pour
faire des enfants.
Bah oui, qui sera le père?
Depuis que Karine est morte, tu es la seule.
Bah, il y a Alice aussi.
Alice, elle joue pas dans le spectacle.
Et pourquoi je devrais choisir?
Tu vas pas faire des enfants avec tout le monde.
Mais pourquoi pas?
Alors là, moi, je quitte cette île tout de suite.
C'est comme ça, j'ai plus que quatre.
Thomas More, dans son livre, il dit pas que tout le monde fait des enfants avec tout le monde, quand même.
Il dit que tout appartient à tous.
Alors on appartient tous à tous?
Moi, j'appartiens à personne.
De toute façon, on va pas refaire la société que propose Thomas More. Faut qu'on invente l'utopie d'après Thomas More. Son île, elle est périmée.
L'utopie de Thomas More, ce n'est pas un yaourt, Joachim.
Ah, relis le livre. Qui voudrait vivre sur cette île? C'était il y a 500 ans, si elle est idéale, elle a forcément évolué.
Tenez, c'est écrit ici. C'est une république.
Si vous voulez créer une république sur votre île, alors moi, je fonde une autre île.
Ça va fonder ton île ailleurs et arrête de saboter la nôtre.
Très bien, je vais créer un nouveau continent. La vraie île d'Utopie, ce n'est pas celle que vous voulez inventer.
Mais la tienne n'existe pas encore.
Alors elle est beaucoup plus utopique que la vôtre.
Mais reviens, Nathan. Qu'est-ce que tu fais?
Je vais créer une colonie au fond de la mer.
Mais t'es complètement fou.
Il va faire couler notre île.
Moi et ma fille et mes amis poissons, on va trouver le meilleur régime politique qui ait jamais existé.
À ce moment-là, une ombre apparut sur le radeau et deux énormes cornes de brume résonnèrent dans nos oreilles.
pétrolier russe vient d'arriver juste devant nous. Un mur d'acier se dresse à quelques mètres. Et là-haut, son équipage qui nous fait des signes. Sans doute pense-t-il que nous sommes naufragés sur notre embarcation de fortune. Alors nous leur crions. Nous ne voulons pas être sauvés.
Nous sommes une île. Vous vous accostez, vous rentrez dans une nation indépendante. Nous sommes une île. Si vous accostez, vous rentrez dans une nation indépendante, un territoire qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Si vous mettez un pied sur notre radeau, vous disparaîtrez des écrans radars.
D'ailleurs, il vous faut un visa et des papiers en règle.
Oh, attends. Pas de visa, t'inventes encore des frontières imaginaires dont on n'a absolument pas besoin.
Toutes les frontières sont imaginaires.
Mais on va pas se laisser envahir par une horde de sauvages russes qui pourraient nous voler notre île. Peut-être qu'on pourrait contre-attaquer et annexer ce bateau à notre île. Comme ça, notre territoire pourrait s'agrandir et peser davantage sur la scène internationale.
Oui, tentons un abordage par surprise.
Prenez très discrètement quelques armes. Moi, je vais lancer un grappin.
Allez,
pour des fous. Il était parti à toute allure. Notre seule chance de survie venait de s'envoler. Et nous voilà de nouveau seuls sur la mer, avec notre île à la dérive.
Le soleil venait de se lever. Quand Joachim perçut quelque chose se détacher de l'horizon. Les mirages nous avaient surpris plusieurs fois ces dernières semaines. La fatigue et la folie semblaient peu à peu prendre possession de notre perception du monde. Pourtant, là, à ce moment, il murmura.
Une île.
Une île. Puis il hurla.
Une île !
Comme s'il voulait l'atteindre de sa voix. Son cri dans le crépitement des vagues nous fit tous sursauter et nous tira violemment du sommeil. Je me glissais entre ma couchette et je regardais l'horizon. Oui ! Ah ! Il y a bien un bout de terre là-bas !
Un île ! Là-bas ! Vous la voyez ? Oh ! Ce n'est pas un mirage ! Ouvrez vos yeux, elle a fini par exister !
Passe-moi les jumelles ! C'était bel et bien une île ! Derrière la brume du matin, on pouvait distinguer deux collines, une anse qui s'engouffrait dans les terres, et une ville sans doute là-bas.
Notre île, nous l'avons trouvée, l'île d'Utopie est là, nous avons réussi. Les amis, prenez vos rames et rapprochons-nous.
Dans la brume légère apparaît un radeau.
Chacun reprit son poste et positionna sa rame. Nous avions peu à peu déserté les avions depuis des mois. Nous faisons confiance au hasard des vents qui guidaient notre embarcation vers l'inconnu. Et soudain, l'espoir revenait dans cet océan infini. Nous ramions et nos chants résonnaient à nouveau. Nous ramions et cette île s'approchait imperceptiblement. Et soudain, à un moment, je me suis retourné. Regardez là-bas, un bateau.
J'attends. Nathan, qu'est-ce que tu fais?
Je vous laisse, vous occupez pas de moi.
Nathan, qu'est-ce qui te prend?
Je vais partir.
Mais on vient juste de trouver l'île.
Mais j'ai jamais voulu la trouver, moi, cette île. Ce qui m'intéressait, c'était de la chercher. Vous la cherchez par tous les moyens. Je vous empêche pas d'y aller, juste laissez-moi partir, Nathan.
Mais c'est du suicide tout seul sur l'océan.
Tant qu'il reste cette île à chercher, tout va bien.
Mais Nathan, t'es accroché au radeau.
Non.
Allez, reviens tout de suite!
Arrêtez! Vous êtes en train de tuer mon rêve! Non!
Tirez!
Assassin!
Allez.
Allez-y, aidez.
Mais pourquoi j'ai oublié d'attacher cette corde?
Nathan, maintenant ça suffit, tu remontes sur le radeau. Et vous autres, prenez les rames et cap vers l'île d'Utopie.
Où est-elle?
Quoi?
L'île.
Elle a disparu. Nous avons scruté de tous côtés, chaque horizon. L'île avait disparu. Alors tout le jour, nous avons élaboré des stratégies, ramé à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et puis, il a fallu se résoudre à la terrible vérité. L'île avait bel et bien disparu.
Nous n'avons plus la même utopie. Ça craque. Voilà le vrai naufrage. La vraie tempête qui secoue nos corps et nos esprits. Plus aucune lucidité face à l'océan qui nous entoure depuis des mois. Nous ne sommes plus capables de vivre ensemble. Nos idéaux ne sont plus compatibles. L'échec est immense, vertigineux. Tout ça pour rien. Une nuit, nous avons décidé de séparer les radeaux. Ceux qui veulent rebrousser chemin. Ceux qui veulent retrouver l'île que nous avons aperçue. Ceux qui veulent continuer à la chercher, cette île, sans jamais la trouver. La bataille a eu lieu toute la nuit. Et au matin, à la lumière étrange d'un ciel blanc, on coupe les amarres à la hache, avec la hargne de briser tous les liens qui nous retiennent. C'est triste et c'est joyeux. Et les radeaux se séparent. Et les radeaux s'éloignent les uns des autres comme s'ils s'enfonçaient dans l'eau. Les cris de joie étouffent les sanglots.
Que les vagues vous emportent au loin. Vous allez voir ce que l'océan fera de vous. Va-t'en loin et que je ne te revois jamais.
Vous ne survivrez pas longtemps. On est sur le radeau cuisine. Jusqu'à ne plus nous voir, jusqu'à nous retrouver perdus, chacun au milieu de l'eau. Peu à peu, là-bas, des nuages noirs. Là-bas, le vent se lève, une légère brise, et puis des rafales de plus en plus fortes. Le vent a commencé à forcir, et les vagues se font de plus en plus grandes.
Oh!
heures plus tard, qui ont peut-être duré des jours, tout s'est calmé.
Mais qu'est-ce que tu fais là?
Je comprends pas. On était pourtant partis chacun de notre côté.
Il y a une tempête effroyable.
Nous aussi.
Et la tempête a rassemblé les radeaux. Qu'est-ce que tu fais là?
J'étais partie pour un beau voyage, mais j'ai fini par m'ennuyer, vous me manquiez.
Mais regardez! Là-bas, une terre!
J'ai déjà vu cette terre!
Ouais. Ce sont les 11 écluses d'Édé. On est revenu au point de départ. La tempête nous a ramenés sur la côte bretonne.
Alors nous rentrons bredouille. Nous n'avons pas trouvé l'île.
Mais on l'a aperçue.
Allons, rentrons et enterrons Thomas More et son île. Elle n'existe pas.
Je vais essayer des planches du radeau pour faire un cercueil.
C'est ainsi que nous avons décidé d'organiser l'enterrement de Thomas More et de son île. À notre arrivée, une foule était là pour nous accueillir, alors nous avons avoué notre tristesse et nous avons mis le cercueil à l'eau. Vous voulez que je refasse l'oraison?
Mais pourquoi le cercueil flotte? Il devrait couler avec tout ce qu'on a mis dedans, Thomas More et tous nos livres.
Qu'est-ce qu'on va faire si pour pas?
On pourrait peut-être l'enterrer là-bas sur la berge.
Jette-la maintenant, le voyage est fini.
Notre voyage a une drôle de forme quand même.
Oui, ici, nous allons creuser. Nos rêves prennent fin aujourd'hui et pour toujours.
Hé, mais regardez, notre voyage a la forme d'une île.
La forme d'une île?
Mais oui, Karine a raison. C'est exactement l'île de Thomas More.
Ça veut dire que...
Nous avons trouvé l'île.
L'île d'Utopie existe! Nous l'avons fait apparaître!
Thomas More, c'est bien manger de nous quand
alors,
même!
Alors arrêtons de pleurer! Il faut rire! Nos rêves sont devenus la réalité! Il a fallu mourir plusieurs fois, devenir flou, errer à l'inconnu, se perdre encore pour savoir que nous étions aveugles! Nous avons trouvé l'île d'Utopie! Demain, la carte du monde aura changé de visage! Alors ce soir, à la prochaine escale, annoncer cette grande nouvelle. Mais avant, dansons et rayons à tue-tête. Je déclare que le monde a changé et que le bar est ouvert.
Alors voilà, c'était le voyage en utopie. T'en as pensé quoi, toi?
Réaction à chaud. C'est drôle parce qu'avec Advenis, on a pensé exactement la même chose sans se concerter, surtout que lui, il n'a rien compris au texte.
Oui.
Donc c'est très intéressant parce qu'on s'est dit, Ah, mais en fait, ils sont pas partis. C'est un décor de théâtre et c'est un concept de théâtre en lettres majuscules. C'est-à-dire, le théâtre est une utopie, inventons notre voyage pour en parler et être proche des gens. Et en fait, c'est hyper intellectuel et ça m'énerve. Après, c'est magnifique comme décor. Et il y a des beaux textes, des fois, parce que des fois, c'est long et chiant. Mais par contre, c'est un beau projet, c'est super beau et tout ça. Et il y a des trucs trop drôles et décalés, etc. Mais pour moi, il y a une erreur de dans le faux et le vrai qui est vraiment une trahison, en fait. Parce que, par exemple, à un moment donné, il y a une fille qui meurt. Et je trouve ça hyper déplacé. Bref. Ce personnage qui meurt, pour moi, c'est une énorme erreur d'écriture. Enfin, je sais pas comment dire, mais de là où on se place, quoi. Parce que moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est là où c'est intellectuel, c'est que on va faire une mort inventée, on va faire un truc, et qu'à la fin, on se perd dans ce truc d'imaginaire et de pas imaginaire. C'est hyper évident que c'est ça l'intérêt. À des moments, j'étais là, mais merde, ils sont pas partis en vrai. C'est un décor de théâtre, leur putain de radeau, quoi. Moi, j'étais là, mais elle est où l'aventure? Et c'est une aventure de théâtre.
Absolument. Ouais. Ben, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose d'un théâtre archi-sponsorisé, archi-encadré,
bah, moi, j'ai envie, dans mon utopie intérieure, de croire, oui.
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ce à quoi j'ai envie de croire, c'est ce voyage.
Ouais. Mais c'est là où c'est intéressant ce que ça questionne comme propos quand même, parce que bah il y a des idées super fortes et c'est ça qui fait avancer la pièce et c'est ça que je trouve très beau quand même. C'est que son imaginaire, son invention, son parcours et tout ça, c'est ça l'utopie et le fait que ça trace une île en soi dans le parcours de l'utopie, c'est le message, mais en même temps, c'est dommage que ça n'a pas vraiment... Enfin, ça se trouve, ils sont partis, hein. Enfin,
après... Bah écoute, en tout cas, ils n'ont pas été bien loin. Hein. Ils sont partis, je pense.
Ils n'ont pas des cicatrices hyper profondes.
Voilà, ils ne sont pas hyper bronzés.
C'est ça, en fait.
Ils n'ont pas de marque.
Non, mais voilà, c'est clairement l'aventure de théâtre.
Ouais.
Et c'est en ça que c'est un concept de théâtre, quoi.
Alors, il y a quand même un film.
Ah ouais,
de
mais
l'aventure.
Je pense que du coup, le film est... vachement plus intéressant peut-être. Enfin, parce que pour moi, je voyais vachement d'images, parce qu'il y a beaucoup de récits par moment en fait. C'est dommage parce que, enfin, c'est dommage, c'est un récit, donc à la fois c'est le conte et c'est beau comme ça. Mais il y a des monologues un peu longs, genre le récit, au bout d'un moment, bah oui, vous racontez, mais peut-être qu'ils auraient fallu faire le film et la pièce en même temps, genre, peut-être. Je sais pas.
Et puis vivre un peu plus l'endroit, quoi. Parce que là, l'endroit ne sert qu'au récit.
Et ouais, et en fait, on sent pas qu'ils ont vécu dedans,
mais absolument.
Mais c'est là où, à la
c'est
fois...
C'est là où on sait qu'ils ont pas vécu dedans.
C'est ça. Mais c'est à la fois tout le sens du projet, et à la fois le défaut et la qualité, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois... Autrement, ça aurait pas été du tout quelque chose d'aussi construit et d'aussi abouti, tu vois, même dans l'écriture et tout ça. Et d'un autre côté, il y a un truc un peu sauvage qui manque, quoi.
Ouais.
Mais même jusque dans leurs cheveux, en fait, tu vois, c'est...
Ils sont vachement propres sur eux, quoi.
Ben ouais.
Ils sont hyper propres
enfin,
sur
moi,
eux.
Enfin, moi, j'ai voyagé un an sur un radeau. Si j'ai fait ça, dans ma vie, je pense que j'ai la gueule un peu plus...
Burinée.
À l'envers, quoi. Ouais. J'ai les mains un peu plus, un peu plus abîmées. Sûr. Après, c'est le truc du théâtre aussi que d'être une surface, quoi. C'est en ça que c'est hyper parfait, leur... leur projet, quoi. Enfin, leur pièce, elle est très parfaite dans un projet théâtre. C'est vrai que, du coup, je pense qu'il y en a quand même qui ont dû partir, j'en sais rien. Je sais pas, en fait, j'ai même pas osé leur demander parce que faudra chercher en douce.
Bah oui, on va chercher en douce.
Sont-ils vraiment partis? Mais à Denis, ça sentit pareil qu'ils étaient pas du tout partis.
Bah oui, non, mais on voit bien.
En fait, là, en plus, on voit les coulisses.
Ouais.
C'est pas du tout praticable comme radeau.
Ouais, c'est pas praticable, même en restant en bord de côte.
Mais je pense qu'en fait, ils ont créé leur propre île, comme ils le disent, leur propre résidence de théâtre, où ils ont sûrement effectivement dormi dedans plusieurs fois. Ils ont écrit dessus, ils ont vogué, parce que ça inspire tout ça pour écrire et tout ça. Et voilà, mais d'être allé dériver pendant un an, enfin, franchement, Après, c'est normal qu'ils l'aient, enfin, ils l'aient pas fait.
Ouais.
En fait, quand on y pense. Et ça se trouve, ils l'ont fait. Ils ont dérivé au bout de 5 jours. Ils se sont dit, non, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même des acteurs et ils ont leur vie et tout ça. Et c'est impossible de tabler là-dessus, en fait. Justement, ils ont des subventions et tout ça. À mon avis, ça tient pas trop. À mon avis, le projet, il a justement pris sur le fait que c'était faux. Parce que c'était abouti comme pensée de théâtre, quoi, vraiment. Et voilà, en tant que concept de théâtre, c'est trop classe. C'est juste que...
C'est juste qu'on n'y croit pas. Juste...
Mais bon, le théâtre, on n'y croit pas en même temps. Voilà, c'est juste que ça... Mais voilà, c'est le truc de la magie de l'aventure. Mais ils sont trop mignons en même temps. Enfin, ouais, je les ai trouvés très mignons dans... Tu sais, il y a un truc un peu jeune, hyper flambé, là, que j'ai trouvé agréable par moment aussi. Donc, enfin, moi, j'ai passé un bon moment.
Oui, oui, c'était un bon moment, mais...
Il y a des trucs super drôles et fins et tout ça, enfin, dans la pensée.
Je trouve qu'il
n'y
a pas
quoi.
Du tout assez de folie. C'est, pas...
c'est moyen autogéré dans l'anarchie totale de l'utopie et de la nôtre, en fait. Mais comme ça nous raconte que notre propre utopie, tout ça, dans notre tête et tout, bon, voilà. Mais c'était bien. C'était... J'ai voyagé dans ma tête, dans mon truc. J'ai apprécié le voyage.
Bon, il faudra qu'on trouve le film sur Internet dans quelques semaines.
Ouais. Si un pirate peut nous trouver ça.
Bah oui, un pirate devrait pouvoir trouver ça. Bon, bah voilà, hein, tu crois qu'on aura donné envie aux crocoditeurs de venir voir ou cette pièce ou ce film, un de ces quatre
En tout cas, le décor et tout ça, c'est trop bien. On est bien sur le canal, il fait beau, c'est l'été, les gens sont heureux. Bon voilà, ça donne un peu d'espoir aussi. En même temps, chacun se démerde avec son envie.
Chacun se démerde avec son utopie.
Mais quand même, c'est assez cool. Et puis c'est gratuit pour le coup.
Ouais.
Parce que les subventions, ça a le mérite de faire des trucs gratuits.
C'est sûr.
Et ça, même si on fait nos têtes de nœuds, on peut le souligner. Parce que par exemple, dans un grand théâtre, de payer 25€, déjà, je serais pas allée, donc j'aurais pas eu l'image du voyage, du truc. Ça, c'est quand même cool. J'apprécie.
Bon, allez,
on y va.
C'est parti, on s'en va.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.